BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de votre culture financière, de vos investissements, de vos futurs investissements et placements. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h et jusqu'à midi. On est tous les jours là, du lundi au vendredi. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écoutez à une autre heure du jour ou de la nuit. Le programme de l'heure à venir, on va parler immobilier comme tous les jours. On va zoomer sur la crise du marché locatif. Qu'attendre dans cette période de troubles? Attention au taux d'intérêt de la dette qui pourrait influencer les taux immobiliers, mais aussi le budget que la future majorité voudra consacrer au logement et à la rénovation. C'est ce que va nous dire Pierre Autus, le directeur délégué général de Pluriance et Clameur. Avec Marie-Cœur de Roy, ce sera dans moins de 10 minutes. Le question-réponse du jour portera sur les ETF, sur les trackers. On sera avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. On zoomera sur un ETF que vous connaissez sans aucun doute, le ACWI All Country World. Et on discutera aussi de comment jouer la thématique de l'économie bleue, de la blue economy, des océans, tout ça via des trackers. Oui, c'est possible, vous verrez, on va voir ça vers 11h30. Vous avez des questions, on aura sans aucun doute des réponses. Vous nous écrivez, ça se passe sur LinkedIn en message privé, Lorraine Goumeau, ou bien via l'adresse du direct@bfmbusiness.fr. Nous partons du côté d'Euronext pour faire le point sur la séance en cours. Et petit spoiler, on est passé en dessous des 7600 points. Et oui Antoine, notre CAC 40 vraiment entre deux eaux, à nouveau sous pression. Dites-nous ce qui se passe depuis une heure.
Les taux, quand on a besoin d'une explication, souvent elles crèvent les yeux et c'est les taux d'intérêt, c'est le marché obligataire qui pèse sur l'ensemble des transactions. On est monté à 3,2% sur la dette française 10 ans, on s'était arrêté quand même à 3,17 hier en clôture avec une très nette tension. Et là ça continue et on reste vraiment sur ces niveaux-là, alors on a un peu corrigé à 3,19, mais enfin l'écart continue de se creuser avec la dette allemande à un peu plus de 70 points de base, on est à 2,47 sur le Bund, mais très clairement c'est ça qui pèse sur les indices, qui empêche toute velléité d'achat et tout changement de direction. Puis on voit que c'est vraiment centré sur la France, sur le CAC 40, qui perd 0,21% désormais, qui passe, vous l'avez dit, sous les 7600 points, 7592 à l'instant, alors que le DAX à Francfort reste légèrement dans le vert, plus 0,04%, et l'Eurostock 50, plus 0,07%. En plus, il y a certains secteurs qui pèsent, alors notamment l'automobile, singulièrement ce matin, Stellantis qui recule de 3,15% à 18,72, il y a un abaissement d'objectif de cours d'HSBC, notamment sur la valeur. On a Renault qui recule de 2% à 46,28€. Et à noter que c'est Edenred qui signe la plus forte baisse à moins 2,8% à 40,88€. Mais il y a aussi des opinions d'analystes un peu plus favorables. Et notamment autour de Kering, c'est Bank of America qui relève son opinion à l'achat sur la valeur. Et elle réagit bien. C'est vrai que Kering, en plus, il y a toujours un effet de levier étant donné que le groupe est considéré, alors à tort ou à raison, comme un petit peu en dessous par rapport à Hermès et par rapport à LVMH au sein du secteur du luxe. Donc il y a de meilleures perspectives de dynamique quand le titre remonte, et c'est ce qui est en train de se passer puisque le titre prend 5,4%, c'est la plus forte hausse du CAC à 344,25€. On a Safran avec là aussi une opinion acheteuse, c'est Citigroup qui relève à l'achat son opinion sur la valeur, le titre gagne 1,4% à 199,60€. Et puis derrière à signaler Legrand qui gagne 0,97% à 95,64€. On a Atos aussi qui en profite pour se redresser, plus 4,2% à 1,17€. Et l'accord avec le personnel de Casino profite au titre là qui gagne 2% à 3,45€. Le CAC donc moins 0,23, on est à 7591 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on est toujours sous 1,07 à 1,0691, toujours la pression autour de la zone euro.
Et oui, vos explications Antoine, avec notre CAC 40 qui ploie, on peut dire ça, qui ploie sous le poids de l'obligataire. À suivre votre histoire financière, on va parler crypto.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Des cryptos et des mineurs. Vous allez nous parler de ces grands majeurs, ces grandes majors du minage de Bitcoin qui font vraiment flèche de tout bois, même flèche de tout bois, en minant du Bitcoin, mais pas que. Racontez-nous ce que font ces acteurs.
Oui, dans un souci de diversification, bah, toujours la même chose, hein, essayer de trouver de nouvelles trajectoires de rentabilité de leurs énormes capacités de calcul. Alors, on mine du bitcoin, on va louer aussi les capacités de traitement des données à l'intelligence artificielle, aux startups qui travaillent cette matière première. Et puis, bah, alors ça peut paraître étonnant, parce que désormais, rares sont les cryptos, à part le bitcoin, qui sont basés sur le concept de preuve de travail. Vous savez, c'était tout le débat autour de ces différentes logiques de fonctionnement des cryptos. La preuve de travail pour le bitcoin, la proof of work, comme on dit, dont la valeur est surtout déterminée par la puissance, l'énergie, le calcul des transactions. Alors que tout le monde avait plutôt tendance à, comme l'Ether par exemple, à aller vers la proof of stake, la preuve d'enjeu par le consensus des validations pour déterminer la valeur. C'est moins gourmand en énergie, c'est plus économe en transmission de données, et donc ça contentait tout le monde à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, le minage devient moins essentiel. Et comme les mineurs veulent justement faire un petit peu bouger les choses et pas rester sur le monolithique Bitcoin, ils vont chercher à miner autre chose. Et c'est le cas de Marathon Digital, qui s'est mis depuis septembre dernier à miner alors une petite crypto, pas très connue, ça s'appelle le Caspa. On est autour de 4 milliards de dollars de capitalisation. Hein, c'est vraiment une toute petite crypto. Elle est valorisée à 16 cents le token. Et Marathon, on a fabriqué 93 millions jusque-là. Ça représente alors une toute petite quantité, 15 millions de dollars aux cours actuels, parce que Marathon ne peut pas se passer, est un petit peu addict au Bitcoin, étant donné qu'il est au cœur de cet écosystème, donc il reste très dépendant du Bitcoin. Mais voilà, on se diversifie un tout petit peu, et le groupe a déclaré en plus qu'il allait continuer à augmenter ses capacités, notamment au troisième trimestre, en doublant ses capacités de minage de Caspa, en passant de 30 à 60 pétage, vous vous souvenez, c'est l'unité de c'est la métrique de la production de crypto-monnaie, pour profiter justement des dynamiques de croissance du Caspa, alors qu'il dépasse en plus le Bitcoin en performance sur un an. Il gagne 50% contre 40% pour la reine des cryptos. Donc vous voyez, les majors du minage tentent de se diversifier un petit peu et font effectivement feu de tout bois.
Marathon qui pousse les feux sous le Caspa, que j'appelle pour les investisseurs intéressés qui considèrent les cryptos comme des actifs comme les autres. Caspa, ça s'écrit K-A-S-P-A. Merci beaucoup Antoine de Pyronex, tous les jours dans Tout pour investir quand il n'est pas aux manettes. À retrouver cette histoire en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques secondes. À suivre, on va parler immobilier. Et oui, il y a aussi peut-être des choses à faire du côté du marché locatif dans cette crise, des opportunités. À tout de suite.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO est au centre de celle-ci, le marché locatif, ce marché en crise. On va réfléchir à ce qu'on peut attendre dans cette période trouble de ce marché locatif, car oui, qui dit crise dit aussi opportunité. Restons pro-business. Bonjour Marie-Cœur de Roy.
Bonjour Lorraine.
Pas facile comme exercice, mais c'est ce qu'on essaie de faire sur BFM Business. Nous ne sommes pas seuls. Pierre Autus nous a rejoint. Bonjour cher Pierre.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de Pluriance et Clameur. Avec vous, on va prendre le pouls. Le pouls de ce marché locatif.
Bon, marché locatif en crise, hein, on va pas se mentir. Pierre, déjà, on va se dire où est-ce qu'on en est sur ce marché locatif, parce que cette période trouble en termes politiques, avec ces élections législatives anticipées, ça met quand même aussi un coup d'arrêt à tout ce qui était en train de se faire pour faire relancer un tout petit peu le marché. On en est où, là, concrètement ?
C'est vrai que avant cette dissolution, avant même les élections européennes, depuis février-mars, on avait un frémissement. On a eu une annonce de baisse de taux par la Banque Centrale Européenne qui relançait un peu d'espoir pour les investisseurs et les accédants à la propriété aussi pour acheter leurs biens immobiliers. Il y avait quelques propositions de loi, des choses qui étaient dans les tuyaux pour essayer et tenter de fluidifier un peu les choses.
Vous pensez à quoi en particulier, Pierre ?
Il y avait des choses sur la fluidité du parc social qui aurait pu donner peut-être un peu d'air au parc locatif privé. Il y avait surtout des choses dans le domaine de la copropriété et sur la gestion locative, les exceptions de copropriété pour les travaux qui ne peuvent pas être réalisés parce qu'il n'y a pas de décision de copro, et donc de ne pas pénaliser le propriétaire qui est coincé. Donc, il y avait des idées un peu en ce sens-là qui auraient pu donner des assouplissements par rapport aux différents calendriers de rénovation énergétique 2025, 2028, etc. Et puis sur la sur la gestion locative, de se dire que, après tout, interdire une mise en location, peut-être faut-il attendre qu'il y ait le départ du locataire, qui est quand même le meilleur moment pour faire les travaux, et donc de donner un peu de fluidité en ce domaine, au renouvellement du bail, etc.
Alors, je suis obligée de vous contredire un tout petit peu, Pierre. D'abord, la loi climat et résilience, il me semble, mais après vous m'arrêtez si je me trompe, qu'elle prévoyait d'ores et déjà des petites exceptions. Et typiquement, quand la CoPro s'oppose au vote des travaux, que vous êtes, vous, à l'initiative de la demande de faire les travaux et que c'est nécessaire pour que votre logement qui était passoire sorte de l'état de passoire, a priori, il y avait quand même une forme de tolérance, non ?
Oui et non. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas très clarifié. Et donc, la loi de Guillaume Vuilletet, la proposition de loi de Guillaume Vuilletet qui était portée là tout début juin, venait clarifier ces choses, notamment vis-à-vis, par exemple, du propriétaire. Il y avait des amendements, des propositions qui avaient été faites pour que le juge ne puisse pas annuler, baisser le loyer pour sanctionner le bailleur. C'est-à-dire qu'il y avait une tolérance qui disait qu'on pouvait toujours louer, évidemment, mais sauf que vous n'aviez plus votre loyer. Et donc, c'était un peu la double peine pour le propriétaire qui, à la fois, ne pouvait pas être coincé pour faire ses travaux et, en plus, n'avait pas les recettes pour les payer.
Alors après, sur aussi l'organisation des travaux et de l'interdiction de la mise en location, là encore, juste petite précision à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, il me semble, et encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe, que c'est au renouvellement du bail, alors pas forcément du coup au départ du locataire, mais que c'est au renouvellement du bail que l'obligation d'avoir réalisé les travaux s'imposera. C'est-à-dire que, en gros, si moi je signe le bail au 1er décembre 2024 et que c'est un G, au final, j'ai 3 ans pour que mon propriétaire bailleur fasse les travaux.
Oui, mais c'était pas forcément clair et fluide pour les locataires, tout comme les propriétaires.
Oui, mais c'est pour ça que c'est important de le redire, parce que de se dire, c'est pas le 1er janvier 2025, le couperet tombe, interdiction de tous les jets, faut les sortir du marché.
Oui, mais il y a une question tout à fait pragmatique de se dire que des vrais travaux de rénovation globaux, d'envergure dans un appartement, on le fait au départ du locataire. Il y a une étude formidable qui a été faite par la NIL, à laquelle j'ai participé, c'est pour ça que je dis qu'elle est formidable.
Dites-nous comment elle s'appelle cette étude, que ceux qui nous écoutent.
Sur les travaux qui datent de 2020, que vous pouvez retrouver sur le site de la NIL, et le moment le plus propice, qui a été déterminé, c'est le moment du changement de locataire. Ce qui est parfaitement logique, ça vient enfoncer une porte ouverte, mais c'était bien de l'étudier. Et donc, effectivement, le départ du locataire, ça a donné une souplesse entre 2025 et 2028. Le Sénat a rendu aussi un rapport, il y a quelques semaines, Dominique Estrosi Sassone et Madame Gacquer, disant que peut-être il fallait déporter l'obligation 2025 à 2028. J'ai vu que dans les programmes,
Justement, les différents candidats aux législatives,
il y avait des choses dans ce sens.
On va rentrer dedans, parce que du coup, l'état du marché locatif dépendra aussi de ceux qui nous gouverneront demain, et ils ont pour certains des programmes. Justement, comme on parle des passoires thermiques, l'une des propositions les plus, j'ai envie de dire, les plus trash, parce qu'elle peut bouleverser le secteur, c'est celle du Rassemblement National qui dit faut revoir, supprimer le calendrier passoire.
Oui, alors ils ne veulent pas le revoir, ils veulent, si j'ai bien compris, supprimer les interdictions de mise en location. Bon, il faut être assez prudent quand même.
Ils veulent le voir partir. Au revoir.
Il faut être assez prudent parce que il y a une perspective, une trajectoire qui est donnée. Il faut apporter de la souplesse, il faut donner peut-être des moyens supplémentaires, pas forcément financiers, hein, qui peut être plutôt réglementaires, parce que les finances publiques sont contraintes. Et donc, d'annuler tout bonnement le calendrier, ça ne nous paraît pas très clair. Et puis, ça vient remettre en question tout ce qui a été entrepris
les
investisseurs dans les copropriétés, des objectifs qui sont là pour emmener des immeubles entiers dans des rénovations globales. Je ne pense pas que ce soit le meilleur symbole. En revanche, ça met le doigt peut-être sur une chose qui est intéressante, c'est de dire il ne faut pas interdire la location, ou en tout cas pas tout de suite, pour le parc locatif qui a besoin d'offres, beaucoup plus d'offres. Et pour ça, il faut, à mon sens, réanimer le parcours logement. C'est quelque chose d'un peu plus large, entre celui qui rentre dans un logement social, celui qui accède à la propriété de manière sociale ou normale, qui sort du parc locatif. Et s'il y a du mouvement, ça permet de développer de l'offre.
Fluidifier le marché.
De fluidifier. Et il y a différentes méthodes. Sur les droits de mutation, pourquoi pas. La taxe foncière.
Alors, les droits de mutation, on va juste passer. Enfin, à chaque fois que vous allez me parler d'une des propositions, il faut quand même que je réexplique. Sur les droits de mutation, donc on parle des fameux frais de notaire, je mets de gros guillemets si vous ne me voyez pas, que vous m'écoutez à la radio. C'est donc la proposition de Gabriel Attal et de la majorité sortante de supprimer les frais de notaire, en l'occurrence les droits de mutation, la partie qui va aux collectivités locales, pour les primo-accédants jusqu'à 250 000 euros d'achat. Vous pensez que ça, c'est quelque chose qui est de nature à relancer la fluidité du marché ? Alors, on va surtout dire que c'est une inégalité devant l'impôt, comme le rappelle régulièrement Nicolas Deuze, et qu'a priori, ça ne verra pas le jour, cette idée.
Et qu'en plus de ça, ça aurait un effet inflationniste sur les prix, puisque les vendeurs pourraient être tentés d'augmenter leurs tarifs. Et qu'en plus de ça, les collectivités locales risquent de ne pas être très, très contentes, parce que c'est à l'État que revient le droit, après, derrière, de rembourser les collectivités locales.
Oui.
Pas sûr qu'elles le fassent en temps et en heure, comme le font à date les notaires.
Pierre, votre regard.
Oui, j'achète le symbole. J'achète l'idée qu'il faut permettre aux gens d'accéder à la propriété, qui est la première étape de la sortie du parc locatif, qu'il soit social ou privé. Et donc peut-être d'autres mesures peuvent être prises. Moi, je pense notamment à l'imposition des plus-values. Il y a de nombreux logements qui ne sont pas mis en vente, qui ne sont pas sur le marché à la vente. Et le marché de la vente souffre aussi ces dernières semaines, ces derniers mois. Et bien sûr, l'imposition des plus-values, d'être monté à 30 ans, avec un impôt sur le revenu plus une CSG, c'est un effet de rétention beaucoup sur le marché.
C'est ça, vous voulez dire que la fiscalité incite à la conservation plutôt qu'à la vente.
Exactement. Et donc, on était à 15 ans, peut-être qu'il faut trouver un modus operandi, peut-être baisser drastiquement le montant, mais d'arrêter la suppression pour durée de détention. Et ça permettrait à des gens de remettre effectivement des biens sur le marché. Et pour le coup, ça fait gagner des droits de mutation. Donc, ce que potentiellement, on pourrait éventuellement perdre, mais ça se modélise et ça se calcule sur l'imposition des plus-values, que de toute façon, on n'encaisse pas parce que les ventes sont bloquées. Se récupérera sur les droits de mutation, justement. Et donc, les départements sont très contents.
Pierre, c'est votre proposition. On est d'accord que ça ne figure dans aucun des programmes des trois blocs en présence.
Non, mais ça n'empêche pas de
porter
des choses.
D'accord, non, mais je tiens juste au cas où il y ait beaucoup de gens très enthousiastes à nous écouter. Voilà.
Quelle que soit la majorité ou l'absence de majorité qu'il y aura dans quelques semaines, nous continuerons de porter nos idées sur la rénovation énergétique, en étant équilibrés dans les interdictions, en favorisant les rénovations globales à l'échelle de l'immeuble, avec le DPE collectif, par exemple. Bon, je fais mon marché, hein, là. J'annonce un peu de choses. Et donc, ça va perdurer. De toute façon, là, la campagne était tellement courte qu'il a bien fallu prendre des choses symboliques, j'imagine, selon les différents partis. Et donc, on continuera de discuter, je l'espère, avec des gens raisonnables.
On a parlé de la proposition du RN sur les passoires thermiques. Je dis d'un mot que ni le nouveau Front Populaire, ni Ensemble ne veulent revenir sur le calendrier, les obligations de rénovation. Juste, on va voir les autres propositions pour ce marché locatif. Alors, pour le coup, elles nous viennent essentiellement de la gauche, avec une hausse, par exemple, de 10% des APL. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une bonne solution?
Vous parliez d'effets inflationnistes. Effectivement, les APL sont réputés aussi avoir parfois un effet inflationniste.
Sauf
donc,
qu'ils ont baissé
prudent.
10% sur 7 ans et je n'ai pas vu les loyers baisser, moi.
Il faut être prudent.
Non, je veux dire
que détermine
s'ils baissent,
le prix,
les loyers ne baissent pas,
c'est
mais s'ils remontent, les loyers vont forcément augmenter.
C'est un risque. C'est un risque. Je ne pense pas que ce soit la première des choses à opérer. Je pense que je parie davantage.
Ça ne peut pas resolvabiliser tout un tas de locataires, selon vous?
Je pense qu'il faut davantage miser sur la fluidité du marché et le développement de l'offre locative, d'une offre locative de bonne qualité, énergétique, mais pas que, de lutter contre les passoires carbone, si on peut les appeler comme ça, parce que passoire thermique, c'est pas forcément ce qui est le plus adroit de dire. Et donc, j'ai vu ces choses-là, c'est aussi adjoint avec un blocage des prix, avec un encadrement des loyers quasi généralisé.
À toutes les zones tendues, mais c'est ce que voulait la loi Allure au démarrage,
universelle,
hein, on le rappelle, hein, c'était pas
universelle
un encadrement
des loyers. Bon, on est sur des choses un peu anciennes qui n'ont pas forcément fait leurs preuves. C'est une expérimentation qui a besoin d'une
la garantie
d'une
universelle des loyers, quand même. C'est pas, enfin, pardon, hein, mais pour le coup, Visal, que le gouvernement actuel a beaucoup, dont le gouvernement actuel a beaucoup fait l'apologie, et ils ont raison, hein, pour le coup, ça marche
raison,
bien.
À raison, oui.
À raison, voilà, qui est financé par Action Logement, je crois.
Oui.
Il permet quand même d'assurer contre les impayés de loyers tout un tas de propriétaires. Le truc, c'est que tous les locataires ne sont pas éligibles, même s'ils sont de plus en plus nombreux,
oui,
à Visal. Est-ce que cette garantie universelle des loyers que promet la gauche, ça ne peut pas être aussi une solution, en fait?
Oui, alors il faut saluer le travail d'Action Logement, hein, qui a, en 2016, a lancé cette garantie qui était ce qu'elle était, et elle s'est considérablement améliorée, elle s'est considérablement élargie. Action Logement, je rappelle que le financement, c'est les entreprises,
ouais,
c'est la participation des entreprises à l'effort de construction, qui viennent aider les salariés à se loger, notamment. Je ne suis pas certain qu'il faille universaliser ce dispositif qui est bien en place, qui fonctionne. Je pense qu'il ne faut pas trop le déstabiliser. À chacun son offre, à chacun sa capacité à trouver le bon produit. Il y en a plein, des produits de sécurisation des loyers.
Oui, mais celui-là,
c'est
il a l'avantage
forcément
d'être gratuit pour le locataire et le propriétaire.
Oui, c'est en tout cas financé par. Et effectivement, Le risque de l'étendre à tout le monde, c'est de le faire disparaître. Je suis convaincu de cela. Je pense qu'Action Logement, je crois, tient aussi cette position. Ne venons pas déstabiliser quelque chose qui a été largement ouvert, qui fonctionne bien, qui s'adresse à un public bien précis, qui l'apprécie. Il y a d'autres dispositifs de sécurisation des loyers et je ne suis pas certain que ce soit le problème numéro un dans le monde locatif privé.
Oui, parce qu'on rappelle seulement 1% d'impayés sur le marché locatif.
Oui, 1% durable. Et ce qui pose problème dans ces cas-là, c'est davantage la lenteur de la justice, la possibilité
oui,
de reloger les gens,
cas qui existent
de
quand
ne pas
même,
les laisser dans un logement dans lequel ils peuvent pas payer le loyer, ne reprendront pas le paiement des loyers, et donc de trouver des solutions rapides pour le locataire comme pour le propriétaire, qui est c'est pas des pétroliers, les propriétaires, ces investisseurs, ils ont des échéances à rembourser, des charges, des impôts à payer. Donc parfois, ça a un effet délétère. C'est un peu le
c'est pas
le
des
mauvais,
pétroliers. Je vais retenir cette expression. Votre parole est cousue d'or.
Le mauvais cas qui fait tache d'huile après.
Il reste moins de deux minutes. Je sais que quand on a préparé cette émission, vous m'alertiez sur le fait que c'est moins les programmes qui vous inquiétaient que l'évolution des taux d'intérêt.
Oui, et en cela, sur les taux d'intérêt, bon, on a eu une petite bonne nouvelle la semaine dernière. On a vendu notre dette de manière assez simple, donc assez simple. je mets des guillemets. On a vendu notre dette sur les marchés financiers
sans
grande difficulté. Voilà, on aura une deuxième phase juste après, je crois, le deuxième tour des élections législatives. Il y a deux impacts. Il y a le premier impact, c'est sur les finances publiques. Si notre dette coûte plus cher, nécessairement, dans le budget global, il va falloir abonder pour le paiement de cette dette.
Quand on dit notre dette, on parle de la dette de l'État français.
La dette de l'État français, on aura plus de mal à boucler le budget, donc on va aller couper dans certaines dépenses. L'histoire montre que l'immobilier, soit on coupe des dépenses, soit on augmente les impôts, soit on fait les deux.
Ouais.
Et donc c'est ce qui pourrait paraître inquiétant. Il y a aussi un impact sur les taux d'intérêt avec les taux directeurs de la BCE, dont la bonne nouvelle était arrivée sur une baisse qui n'était pas pérenne, mais il y avait une baisse qui était annoncée, et donc un retour et une bouffée d'oxygène qui pouvait se donner auprès des investisseurs. Bon, tout n'est pas catastrophique, je ne pense pas qu'au lendemain des législatives, ça va être la catastrophe sur nos dettes, il ne faut pas être l'oiseau de mauvais augure. L'immobilier, c'est le temps long, ce sont des investisseurs qui investissent sur une longue période, avec une perspective large, notamment pour l'investissement locatif, mais aussi quand on habite pour soi-même.
Ouais.
On achète pour soi-même, pardon. Il ne faut pas paniquer. Mais il faut être vigilant. Peut-être qu'il faut enclencher un certain nombre de projets assez rapidement pour bénéficier effectivement de taux légèrement allégés. Ce qui est sûr, c'est que quand on
a des... Vous pensez au prêt à taux zéro, par exemple ?
Oui, le prêt à taux zéro, moi j'y crois beaucoup, surtout pour le financement de la rénovation énergétique en copropriété. Le prêt à taux zéro, rénovation, copropriété, ça c'est un bon dispositif qui je pense, va se déployer et les banques semblent s'en saisir et donc ça c'est très bien quand on s'endette d'ailleurs globalement au niveau de la copropriété. Le prêt à taux zéro pour l'accession à la propriété, pourquoi pas, etc. Mais ce qui est important, c'est que les taux durablement restent un peu dans une perspective de légère baisse, ou en tout cas...
Se stabilise,
si ça pouvait descendre avec une baguette magique autour de 2,5%, ce serait rassurant pour les investisseurs. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une bonne occasion d'acheter un bien, un immeuble, une maison, c'est le prix qui est important. Le taux, on pourra toujours le renégocier dans quelques années. Et donc, on aura bénéficié à la fois d'un bon taux dans le futur et d'un bon prix au moment de l'achat. Et celui-là, il ne bougera pas.
Attention au taux d'intérêt de la dette qui pourrait influencer à terme les taux immobiliers. Mais aussi le budget du futur gouvernement, de la future majorité, s'il y en a une, et qui, ultimement, nous affectera aussi sur tous les chantiers de la rénovation et le budget qui sera consacré au logement, finalement. Ce sera ça la conclusion, Pierre, n'est-ce pas ? Pierre Autus et sa parole cousue d'or. Je retiendrai, on va la ressortir, que les propriétaires ne sont pas des pétroliers. Parce qu'on a beaucoup de propriétaires bailleurs
qui sont des pétroliers.
Qui nous remercient de porter la parole des propriétaires bailleurs.
On rappelle, sans eux, il n'y a pas de locataires.
Absolument. des crises du marché locatif qu'attendent de cette période trouble. Voilà, Pierre Autus et Plurian Séclameur ont quelques idées. Cette séquence, t'as retrouvé en podcast et en replay. Excusez-moi, j'avais le nez plongé dans mon téléphone parce qu'on reçoit beaucoup de messages d'auditeurs, notamment pour cette séquence immobilier. Et je voudrais finir avec un message de Michel qui nous suit régulièrement, Michel P, qui nous dit « Au-delà d'un calendrier inscrit dans le marbre, une des solutions, en parlant du DPE, n'est-elle pas l'harmonisation fiscale pour dégripper le marché ?» Eh bien, Michel, on répondra, on alimentera notre émission de demain avec votre question. Et puis, je pense que Pierre, vous avez apporté quelques éléments déjà d'éclairage à notre auditeur. Pierre Autus, délégué général de Plurian Séclameur. À suivre une toute petite pub et après, on s'occupe de vos finances personnelles et on s'occupe d'économie bleue puisqu'on va réfléchir comment miser sur la thématique de l'économie bleue à travers les ETF, à travers les trackers, vous savez. Cet objet financier qui nous occupe le jeudi à 11h30, toutes les semaines pour investir. À tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On s'occupe de vos finances personnelles dans cette émission. En direct tous les jours, un rappel rapide des actualités que j'ai retenues pour vous ce matin. Et puis après, on s'occupe de parler d'ETF, comme tous les jeudis. Un petit mot du private equity qui attire des grands noms du côté de l'Inde, avec des rendements assez élevés. Il y a eu quelques faux pas initiaux, mais ça y est, les entreprises injectent des dizaines de milliards de dollars en Inde. Évidemment, grosse croissance économique, réservoir de talents infini et puis des réformes réglementaires qui facilitent les affaires. L'Inde est devenue un point d'attractivité pour les sociétés de PE et vient concurrencer évidemment la Chine dont l'intérêt faiblit. Je vous donne un exemple. Blackstone indique que l'Inde est désormais son troisième plus grand marché d'investissement après les États-Unis et le Royaume-Uni. Je continue de vous emmener à l'étranger pour vous changer les esprits de l'actualité française et européenne. Le yen du côté Japon qui retrouve une certaine stabilité après avoir chuté hier mercredi à son niveau le plus bas depuis 1986. Ça a alimenté pas mal de spéculations sur une possible intervention des autorités pour soutenir la devise, mais on peut s'attendre à ce que la chute du yen ne s'arrête pas tant que la Fed continue à maintenir sa politique de taux élevés. Des perspectives un peu meilleures pour les banques américaines. Je vous cite les profits de Jefferies Financial Group qui ont augmenté, portés par une hausse des revenus de la banque d'affaires, plus 59% au deuxième trimestre. Ce sont des résultats qui indiquent une reprise de la demande pour les services des banques d'investissement, alors que les préoccupations géopolitiques et les taux d'intérêt élevés, évidemment, ont freiné l'activité des transactions. De plus, ces résultats coïncident avec le succès des stress tests de la plupart des grandes banques américaines. Un mot des chiffres qu'on surveille aujourd'hui. Évidemment, il y aura les jobless claims, le core PCE, à ne pas confondre avec le PCE de demain, les biens durables côté Amérique, et puis évidemment le PIB américain qu'on surveillera, que l'équipe BFM Bourse surveillera attentivement dès 15h30 sur notre antenne en direct. Un mot d'un article à retrouver sur notre site web qui pourrait vous intéresser. C'est Julien Marion de l'équipe BFM Bourse qui signe un article sur Sanofi. Et si Sanofi ne passez pas par la bourse pour vendre son pôle de santé grand public. Vous avez suivi que le groupe pharmaceutique a appelé à des marques d'intérêt pour la cession de son pôle santé grand public. C'est une opération qui serait menée en parallèle de l'étude d'une potentielle IPO, d'une potentielle introduction en bourse pour cette même division. Tous les détails sur notre site web signé Julien Marion. À suivre. On s'occupe d'ETF, on s'occupe de tracker. C'est jeudi dans Tout pour investir.
Tout pour investir sur BFM Business.
Les ETF le jeudi, c'est aujourd'hui avec l'équipe de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Lorraine Cérejol-Garros.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes responsable du développement des ETF pour cette banque française. On est avec vous pendant un petit quart d'heure pour faire le point sur un ETF que sans doute vous connaissez tous. On va l'appeler, on va le décrire, on va se raconter ce que c'est. On parle de l'ACWI, on parle de l'ETF ACWI, pour ceux qui les lisent. All Country World, on va s'arrêter sur cet indice et savoir ce qu'on en fait quand on a envie d'utiliser les ETF pour miser dessus. Un petit peu de pédagogie pour notre audience très diverse, chère Lorraine. Que faut-il retenir sur cet ETF ?
Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être définir ce que c'est qu'un ETF. Donc c'est un fonds qui est coté en continu sur une bourse, en l'occurrence à Paris, sur Euronext Paris. L'objectif de l'ETF traditionnellement, c'est de répliquer un indice de marché. Dans le cas de l'ACWI, c'est de répliquer un indice All Country World, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire tout pays. C'est-à-dire que ça donne accès à la fois aux pays dits développés, mais aussi aux pays émergents. Vous parliez tout à l'heure de la Chine, de l'Inde, la Corée du Sud, par exemple. Donc, en une seule transaction, l'investisseur a accès à une diversification géographique complète.
Est-ce que ça marche, une diversification, quand on met un peu tout dedans ?
Oui, ça marche même très bien, en tout cas sur le long terme.
Donnez-nous quelques chiffres.
Ça évite, alors j'ai pas les chiffres en tête récents, mais ça évite en tout cas sur le long terme d'être exposé à des marchés trop restreints, où on peut avoir un risque effectivement de sous-performance.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la pondération à l'intérieur de cet indice ACWI entre les pays développés et les pays émergents?
Alors grosso modo, c'est 12% d'émergents et donc 88% de pays développés, ce qu'on retrouve dans un indice World, donc c'est-à-dire monde classique.
Pour les épargnants, les investisseurs qui nous écoutent, est-ce que c'est un indice qu'il faut à tout prix suivre, et pourquoi le suivre à l'aide d'un ETF? Alors, d'ETF au pluriel.
À tout prix suivre, oui, parce que c'est une exposition globale à tous les marchés mondiaux. Donc, ça permet de bénéficier potentiellement des opportunités de croissance sur le long terme, d'où l'intérêt d'avoir cette diversification. Et c'est un des gros avantages, justement, de passer par un ETF, puisqu'en une seule transaction, vous allez être exposé à toutes ces grandes capitalisations de pays développés ou émergents. Pourquoi passer par un ETF ? L'aspect, effectivement, simplicité, l'aspect diversification, l'aspect aussi coût qui peut être intéressant.
Un inévitable d'un portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous dire comment techniquement on peut acheter ou se positionner sur ACWI, sur cet indice, et quel est, dans le contexte actuel, comment on peut parler de cet indice et des ETF? Est-ce que dans un monde, phrase un peu cliché, voilà, beaucoup d'élections en ce moment, un risque géopolitique sur l'ensemble du globe, est-ce que c'est un indice qu'il faut particulièrement suivre en ce moment, et que dit-il de l'état de notre économie?
Alors, c'est un indice qu'il faut suivre en ce moment parce qu'effectivement, comme il offre cette diversification, il est moins sujet à ce qui se passe au contexte géopolitique en France et en Europe, d'où l'intérêt d'être exposé sur tous ces pays. Donc ça, c'est très intéressant. Un autre facteur, vous posiez la question de l'intérêt pour un investisseur. Ce type d'exposition, ça, via les ETF, ça intéresse à la fois les particuliers pour se construire un patrimoine de long terme, mais aussi les investisseurs professionnels. Et d'ailleurs, pour parler un peu d'actualité, si on regarde les chiffres au premier trimestre, pour la première fois en Europe, on a cassé le million de transactions sur les ETF listés en Europe. Donc un fort engouement pour l'instrument ETF.
Les ETF, c'est votre métier depuis un moment. Vous chapeautez l'équipe de BNP Paribas Asset Management dédiée à ces indices, à ces fonds indiciels. Qu'est-ce que l'année 2024, si on prend un petit pas de côté, je profite de vous avoir en plateau, dit de l'intérêt que portent les Français et les Françaises à ces ETF?
Sur 2024, un intérêt fort, parce que les statistiques que je vous ai données sur le nombre de transactions, c'est en Europe, mais c'est ce qu'on constate aussi en France. Il y a eu des chiffres de l'AMF qui ont été publiés. Il n'y a jamais eu autant d'investisseurs particuliers qui traitent en direct des ETF. On voit un engouement des jeunes générations, les millénials, qui ont pris l'habitude de traiter via des plateformes, notamment sur les ETF durant le Covid. Donc c'est vraiment une forte demande de la clientèle particulière, alors que ça avait été adopté très tôt, en fait, par les clients professionnels.
Ouais, ça fait quoi, 20, 30 ans ?
Oui, 30 ans maintenant. On a fêté les 30 ans du premier ETF, effectivement.
Comment se porte la France en termes d'intérêt pour les ETF par rapport au reste de l'Europe ?
On est, selon les classements, le deuxième ou le troisième marché européen, derrière la Suisse et l'Allemagne.
En croissance.
Et en forte croissance.
Est-ce un sujet qui intéresse de plus en plus d'investisseurs ? On va tenter de parler écologie et de combiner le terme écologie avec tracker. Car oui, c'est possible de miser sur cette thématique, on va appeler ça Blue Economy. Racontez-nous ce qu'on peut faire quand on est un investisseur intéressé par les ETF et par cette thématique écologie avec des gros guillemets, en particulier tout ce qui est Blue Economy. Donc on va plutôt parler de l'univers de la mer et des océans.
Oui, tout à fait. Alors, cet ETF, il fait partie de ce qu'on appelle les ETF thématiques. On a parlé de l'ETF ACWI, donc là, on est sur des grandes capitalisations, un indice, en fait, qui est pondéré par le poids des grandes capitalisations sur des pays développés et sur des pays émergents. Là, on rentre sur l'aspect ETF thématique et c'est un autre aspect de diversification. Là, on ne va pas être sur un indice qui est pondéré par le poids des capitalisations, mais on va être sur des valeurs qui sont en ligne avec nos propres valeurs en tant qu'investisseurs. Ça peut être des sujets santé, des sujets éducation ou des sujets environnementaux comme le Blue Economy. Donc Blue Economy, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'économie des océans. Alors les auditeurs ou les téléspectateurs l'ont peut-être pas en tête, mais les océans, ça représente 50% de l'oxygène que nous respirons et ça capte 30% des gaz à effet de serre que nous émettons. Donc préserver les océans, c'est vraiment un enjeu important, pour, notamment pour le changement climatique.
Mais comment on concilie une envie de rendement et l'envie de sauver le monde et la planète avec quel horizon d'investissement peut-on faire ça ?
Alors c'est des horizons long terme. Là sur l'ETF Blue Economy, on va investir sur des grandes capitalisations mondiales.
Vous pouvez nous donner des exemples ?
Dans des secteurs, alors ça peut être des sociétés dans le secteur maritime, typiquement le transport maritime. Ça peut être des sociétés dans le secteur agroalimentaire, donc tout ce qui est pêche, pisciculture, aquaculture. Ça peut être aussi le secteur des énergies renouvelables, donc tout ce qui est les énergies éoliennes provenant de la marée ou des vagues. Donc on a une cinquantaine d'entreprises sur ces différents secteurs. Là, on n'a plus une diversification multisecteur, mais on va se focusser effectivement sur des secteurs en lien avec la thématique. Et ce sont des entreprises, en fait, qui sont bien positionnées pour bénéficier des ressources océaniques et créer de la valeur sur le long terme, tout en préservant les océans.
Quelle est la place de l'Europe ou des entreprises françaises à l'intérieur de cette thématique ?
Alors, on est à peu près sur des niveaux de 10%, puisqu'on a des grands transporteurs maritimes, notamment en France. On a une pondération qui est assez forte sur les pays asiatiques, du fait de la thématique océan, de la pêche, notamment de l'aquaculture, des transports également.
Bon, ce qui nous intéresse, c'est évidemment de concilier une envie de rentabilité, on va dire, avec des thématiques ESG. Comment, dans un contexte économique et politique, tendu, les sujets ESG, les sujets environnement, notamment, s'en sortent ?
Alors, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a deux choses à considérer. Il y a d'abord l'aspect risque. Quand vous investissez sur des produits dits ESG Sustainable, il y a des critères en fait de sélection des sociétés sur des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, une fois que les entreprises ont passé ces critères, en général, elles sont plus solides et vous avez moins de risques d'investir sur un titre à controverse. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est diminution du risque au niveau de votre portefeuille. L'autre aspect, on parlait de Blue Economy, c'est d'investir sur des entreprises qui sont vraiment positionnées pour bénéficier des méga-trends, des méga-tendances actuelles. Et donc là, on a un potentiel de croissance sur le long terme.
Question toute simple, quand on est investisseur novice, mais qu'on investit avec le cœur, si possible aussi un peu avec sa tête, qu'on a envie de se positionner sur une thématique Blue Economy, qu'est-ce qu'on met en face pour diversifier son portefeuille ?
Alors, sur Blue Economy, vous avez des expositions sectorielles assez fortes sur cet ETF thématique. Il y a certains ETF thématiques également qui sont plus diversifiés en termes de secteur. Je peux citer par exemple l'économie circulaire, qui est aussi une thématique très intéressante. On a un ETF économie circulaire depuis 2019, qui fait plus de 1 milliard maintenant d'encours. Et là où on a une répartition sectorielle plus en ligne avec les indices grande capitalisation. Donc sur le Blue Economy, c'est bien d'adjoindre des ETF thématiques avec des ETF traditionnels, en fait, qui répliquent plus largement les indices. Toujours dans un souci de diversification.
Question technique, on est suivi en direct par nos auditeurs, qu'on salue. J'ai Vincent qui me demande sur LinkedIn, quel est l'encours minimum qu'il faut avoir en tête pour miser sur un ETF. Est-ce que, là, vous venez de nous citer 1 million d'encours pour cet ETF économie circulaire. Est-ce qu'il y a un niveau d'encours en dessous duquel vous ne recommandez pas aux investisseurs particuliers d'aller ?
Alors, sur cet ETF, on a 1 milliard.
Donc, 1 milliard, j'ai dit 1 million, pardon. Oui, 1 milliard.
Alors, ce qu'il faut voir quand on investit sur un ETF, ce qui compte, c'est la liquidité du sous-jacent et de l'indice. Donc, quand on investit sur un indice qui représente, en fait, l'économie mondiale, il n'y a pas de minimum à considérer. Dans la réalité des faits, à partir de 50 millions d'encours sur un ETF, on a quelque chose qui est totalement diversifié et avec un risque vraiment petit.
50 millions d'encours, un minimum, on va dire, pour envisager un ETF. Quelles sont les thématiques que vous anticipez ? On parlait de méga-tendances. Est-ce qu'on peut imaginer, déjà, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous anticipez comme thématiques qui vont être
soit sous la lumière médiatique, soit vraiment d'intérêt financier dans les prochains mois. En admettant que la situation géopolitique reste compliquée, que les sujets d'écologie soient toujours au centre de la table, est-ce que, pour le dire très simplement et excusez ma simplicité, des ETF sur les valeurs d'armement et, par exemple, cette thématique Blue Economy sont des sujets qui vont continuer à porter?
Alors, ça peut être très complémentaire hein, pour les thématiques que vous citez. Sur les thématiques vertes, en fait, on est vraiment sur de l'investissement long terme. Et la visée pour l'investisseur doit vraiment être un horizon long terme.
Qu'est-ce que c'est long terme à votre sens ?
Long terme, c'est 5 ans et plus. Hein. Donc, sur le Blue Economy, l'importance des océans, elle ne va pas être mise en cause demain. Donc, on peut continuer à investir. Après, on peut être un peu plus tactique sur, effectivement, des thématiques qui sont plus liées à l'actualité à court terme. Alors, je pense aux infrastructures, par exemple, parce que même si on est dans une situation géopolitique un peu compliquée en France, il y a quand même des choses qui ont été faites au niveau européen et au niveau mondial avec le Green Deal. Et donc, on sait qu'il va y avoir un afflux d'investissements sur les infrastructures. Il va y avoir, du coup, un renchérissement des valeurs. Donc, ça peut être intéressant. Des choses comme l'infrastructure. On peut penser aussi à des ETF sur l'hydrogène. Donc, tout ce qui est nouvelle énergie, avec les tensions géopolitiques qu'on a actuellement sur les énergies fossiles.
Intéressant. Ces méga tendances, évidemment, sur lesquelles on peut miser grâce aux ETF. Merci beaucoup, Lorraine Cérejol, d'avoir été avec nous. Vous êtes responsable du développement des ETF à BNP Paribas Asset Management. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application d'ici quelques minutes. Les ETF font l'objet de cette séquence hebdomadaire le jeudi à 11h30. Et puis, vous le savez, à n'importe quelle heure, en replay, en podcast sur notre site. C'est bientôt la fin de Tout pour investir. Mais ça n'est pas la fin de nos programmes, puisque Sandra Gandoin va prendre les manettes d'avec vous d'ici
Bonjour
quelques minutes. Elle est déjà là. Bonjour Sandra. Quel est le programme de l'émission ?
On va répondre à toutes vos questions, comme tous les jours, vos questions sur la vie en entreprise, entre midi et 13h avec nos experts. Par exemple, avez-vous réussi à obtenir une augmentation plus importante que vos collègues ? Pour ça, il faut parler d'argent en entreprise, c'est pas gagné. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour avoir plus de clients ? Comment ne pas trop subir ses collègues dans l'open space ? Et quels sont mes recours, par exemple, si je suis discriminée ou harcelée en entreprise ? Bref, ce genre de questions, mais vous pouvez nous écrire à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Vos questions, on les reçoit pendant l'émission. On y répond pendant l'émission également dès qu'on peut. Et vous êtes les bienvenus, évidemment.
On s'occupe de votre open space sur BFM Business ce midi dans l'équipe d'avec vous. C'est aussi en direct sur les réseaux sociaux, vous l'avez entendu. Nous serons là demain parce que c'est presque la fin de Tout pour investir. Merci à toute l'équipe pour la préparation de cette émission. Merci aussi à vos messages. Vous continuez à nous écrire. Si vous avez attrapé l'émission en cours de route, pas de panique parce qu'elle est déjà disponible en replay et en podcast. On se revoit demain pour attendre un petit peu plus le PCE ensemble. Ce sera l'indicateur qu'on suivra vraiment demain. On sera en direct dès 10h. Le vendredi, on parle crypto. Le vendredi, on parle immobilier. Et puis, nous allons évidemment continuer à vous éclairer en ces temps politiques un petit peu troubles. Je vous précise que d'ici 14h, nous serons en direct sur le site web de BFM Business pour suivre en direct un événement qui se passera du côté de Paris. Nous serons avec l'équipe d'Ocure qui organise sa rencontre quotidienne aujourd'hui. Les rencontres Ocure, ça se passe à Paris. Émission spéciale dès 14h. Stéphane Frag, qui est le CEO d'Ocure, est avec nous pour raconter un petit peu ce qu'on va se dire cet après-midi. Bonjour Stéphane. Stéphane est déjà sur un fond vert magnifique. Racontez-nous ce que vous allez faire aujourd'hui à la rencontre Ocure, de quoi on va parler et qui va être au cœur des discussions.
Alors c'est vrai que c'est la 4e édition de la rencontre Ocure, donc on a le plaisir de te retrouver, Lorraine, cet après-midi. Donc en fait, là, c'est un rendez-vous majeur de la gestion de patrimoine où en fait, on a tous les acteurs de l'écosystème qui se rencontrent. Donc, ce sont donc les CGP, les family office, les sociétés d'investissement, les sociétés d'assurance vie, les avocats, les notaires, les experts comptables. Et donc, l'objectif, c'est de faire un point sur l'actualité, actualité économique, un point sur les investissements. Il y a des prix et donc des pitchs. Donc, on a eu 60 personnes qui ont pitché ce matin avec 10 catégories, une remise des prix ce soir à 19h, 3 ateliers thématiques qui vont parler d'impact, d'investissement coté versus non coté et où des perspectives du monde de la gestion de fortune parce que c'est un monde qui bouge beaucoup, des activités ludiques et une soirée jusqu'à très tard dans la nuit. Et on attend, on a 750 inscrits, Donc ça s'annonce, c'est une belle journée, on a de la chance d'avoir un peu de soleil. Donc je vous ai mis un fond assez joli, ça nous fait du baume au cœur de voir un peu de soleil et un peu de verdure.
Ça se passe du côté du Pavillon Royal à Paris, je vous l'ai dit. Exactement. On sera en direct pour une sorte un peu de spin-off de Tout pour investir là-bas pendant une heure de 14h à 15h à la rencontre des acteurs de la finance, plutôt un rendez-vous B2B. On continuera à discuter des environnements de crise et surtout des opportunités d'investissement. On a prévu de parler de bons conseils de gestion, plutôt B2B, mais ça intéressera aussi nos auditeurs B2C, évidemment, pour comprendre que faire avec son argent dans ce contexte complexe. Mais c'est pas la première fois qu'on évolue dans un contexte complexe. Un mot, Stéphane, peut-être pour finir, sur l'état d'esprit dans lequel vous organisez ces rencontres. On n'avait pas forcément anticipé, voilà, d'être à la veille d'élections législatives, etc. Ouais. Quel est le mood, quel est le moral des professionnels du monde de la finance qui vous entoureront cet après-midi?
Alors c'est vrai que c'est un moment qui est assez compliqué, hein, donc ça vous venez de le dire. Donc en fait, c'est moi je trouve que même si l'environnement est difficile, bah c'est là que s'expriment tous les experts que l'on a et qui sont là pour accompagner, dont vous parliez, de B2C, de clientèle privée. C'est tous ces experts là qui sont là justement pour agir dans des moments où c'est plus complexe. Donc mais écoutez, c'est la température, on va dire, est modérée. On attend des choses. Dimanche va donner des premières informations. Le second vote après, mais c'est vrai que c'est pas un environnement facile. Mais la finance de manière générale n'est pas facile. On est dans un monde qui fluctue beaucoup. Donc ben, moi je suis content qu'on ait autant d'experts aujourd'hui qui vont pouvoir donner plein de réponses à tous ceux qui se posent beaucoup de questions.
Voilà, vous avez des questions, on aura sans doute des réponses cet après-midi à la rencontre au CURE. Et pour vous qui n'y serez pas, ça se passera en direct dès 14h sur le site web de BFM Business. Émission spéciale depuis le Pavillon Royal, événement B2B. Bon, pour faire quoi? Pour favoriser les échanges entre les investisseurs professionnels. Rendez-vous à 14h sur notre site web. Et cette émission sera également diffusée sur nos antennes radio-télé ce week-end. Cher Stéphane Frag, patron de CURE, à tout à l'heure. Chers auditeurs, je vous dis à demain. Je vous confie à l'équipe de Sandra Gandouin et toute l'équipe d'Avec Vous qui aura aussi des réponses à vos questions. On vous emmène dans votre open space dans quelques minutes. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business.